don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture qui continue de mettre en récit le monde moderne. Aujourd'hui, nous vous proposons de retracer le continuum du conflit syrien débuté il y a 5 ans maintenant, depuis 6h du matin jusqu'à 22h. Des émissions, des reportages alimentent l'antenne en partenariat avec la rédaction du quotidien Libération qui sort aujourd'hui un numéro spécial Libération des Syriens, écrit par des Syriens. On est tous les vendredis en partenariat avec Libération. C'est aujourd'hui Marc Semo qui est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors 5 ans après les manifestations pacifiques et la révolte de Deraa, où une quinzaine d'écoliers étaient arrêtés pour avoir tagué des slogans issus de la révolution égyptienne et dont Libération a d'ailleurs retrouvé la trace. On peut lire le portrait de l'un d'eux dans l'édition de ce matin, justement Marc. 270 000, vous voulez faire un commentaire ? 270 000 morts, je le disais, plusieurs millions de déplacés plus tard, la paix ne semble toujours pas d'actualité, et en partie parce que les acteurs régionaux et internationaux sont venus se greffer au fur et à mesure, et que ce qui était au départ un conflit social et politique circonscrit au seul contexte national syrien, eh bien tout cela est devenu une guerre par procuration. Iran, Arabie Saoudite, Liban, Turquie, mais aussi Union Européenne, États-Unis, sans oublier la Russie, bien sûr. Depuis des mois maintenant, plus encore depuis le début de l'intervention militaire russe en septembre dernier, on a le sentiment que c'est en grande partie sur la Russie que repose l'espoir d'une solution politique à cette crise. On va tenter de comprendre ce qui fait de Poutine le véritable maître du jeu syrien. Pour évoquer ces questions dans un instant, deux invités, Tornike Gordadze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, chercheur associé au CERI, et puis l'ancien ministre géorgien de l'intégration européenne. À vos côtés, Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'école d'affaires publiques de Sciences Po Paris, et puis ancien enseignant d'ailleurs du côté de l'université de New York et de Moscou. Avant de vous retrouver les uns et les autres, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, le journaliste qui revient, qui est en studio avec nous ce matin, revient d'Iran, qui n'est pas du tout sans lien bien sûr avec la Syrie. Au contraire, Téhéran est probablement la capitale qui a le plus d'influence sur ce qui se passe en Syrie, plus encore peut-être que Moscou. Bonjour Jean-Pierre Perrin.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Pierre, également journaliste à Libération. On vous reçoit pour une série de reportages publiés dans Libération, certains qui ont déjà été publiés, d'autres qui vont être publiés. Vous avez passé plusieurs jours en Iran, notamment à l'occasion des élections, on en parlera, mais vous êtes également, vous avez profité de tout cela pour mesurer peut-être l'impact du conflit syrien sur le pays. Cet impact, il est visible un petit peu partout Jean-Pierre, mais plus encore dans un cimetière de la partie sud de la capitale, alors je ne sais pas si je vais prononcer correctement, Behçet-e-Zara.
Oui, Behçet-e-Zara, le paradis de Zara littéralement, qui est le grand, grand, grand cimetière du sud de Téhéran.
Au cœur du cimetière, le carré des martyrs, les shahids. Et si l'endroit est normalement calme, une fois par semaine, il s'agite pour enterrer ici les combattants iraniens partis en Syrie et morts en Syrie.
Partis se battre en Syrie, oui, alors les combattants iraniens et les combattants afghans. Puisqu'il y a à la fois des volontaires afghans, volontaires entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas toujours forcément volontaires, je crois qu'on les pousse un peu, et puis effectivement des gardiens de la révolution et des Basidji, donc des miliciens du régime, qui vont se battre en Syrie. Et en général, le jeudi après-midi, c'est le jour où on enterre ces morts. Et donc, le chiffre, évidemment, est très variable d'une semaine à l'autre. Jeudi, ou pendant la semaine où j'étais à Téhéran, on en enterrait 5.
Quand vous vous rendez sur ce cimetière, vous croisez notamment un membre de la famille d'un des combattants qui est enterré, et il tient à vous préciser qu'il s'agit de Basidji et pas de Pasdaran. Il vous dit, les Pasdaran sont des combattants professionnels, ils obéissent aux ordres du gouvernement. Les Basidji, eux, vont se battre avec tout leur cœur, ils sont volontaires parce qu'ils aiment ce qu'ils font.
Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'une part que le régime dit, oui, effectivement, nous intervenons en Syrie, mais nous intervenons comme conseillers militaires. Nous ne participons pas au combat, simplement nous envoyons des techniciens, des officiers supérieurs qui sont là pour diriger un peu les combattants, pour les former, pour les conseiller. Or, le fait qu'il y ait simplement des miliciens montre bien que le régime iranien envoie simplement des combattants se battre, ce qui est quand même une différence par rapport à la parole officielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est...
Ils les payent.
Alors là, les Basidji, normalement, combattent avec tout leur cœur. Donc, ils ne devraient pas être payés. Les passes d'Aran sont, touchent une
bien
solde.
Sûr. Mais les Bassidjis,
forcément. Les Bassidjis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, le deuxième point, c'est que on ne les enterre pas vraiment dans un carré spécifique. On les disperse un petit peu au milieu des autres morts de, comme martyrs, soit pendant la révolution contre le Shah, soit pendant la guerre, la longue guerre de 9 ans, Irak-Iran.
Et ça, visiblement, ça plaît pas à tous les Téhéranais. Il y a une frange de la société, en tout cas, qui considère qu'ils ne devraient pas avoir les mêmes honneurs que ceux qui sont tombés, justement, pour la révolution ou pendant la guerre Iran-Irak.
Ça, je suis pas sûr. Je pense que quand même, le martyr, d'ailleurs, il y a un religieux, les religieux, en général, expliquent très bien, le religieux, le martyr ne combat pas pour le sol de sa patrie. Il combat pour la défense de l'islam, globalement. Et il doit, quel que soit le pays musulman, donc il est, on ne doit pas faire de différence entre le territoire iranien et le territoire syrien. Alors évidemment, pour le gros de la population, surtout la population iranienne, qui est extrêmement nationaliste, extrêmement chauviniste, entendre ça, c'est évidemment, ça fait un peu froid dans le dos. Mais il y a quand même 2, 3 ou 4 sociétés différentes en Iran. Et donc, une partie de la population se moque complètement de ce qui se passe en Syrie.
Et il faut rappeler, bien sûr, que ces combattants partent d'abord et avant tout pour protéger les lieux saints chiites.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, on s'aperçoit bien qu'on les retrouve un peu sur tout le territoire syrien, en particulier autour d'Alep. C'est près d'Alep qu'un général iranien a été tué, d'ailleurs, dans des circonstances pas très élucidées. Alors j'ai retrouvé sa tombe. Effectivement, il est enterré parmi les personnalités du régime qui sont mortes pendant la guerre Iran-Irak ou alors lors d'attentats commis par les ennemis du régime à Téhéran.
Alors, il y a les Iraniens, mais vous le disiez aussi, il y a des Afghans qui vivent en Iran et qui sont envoyés en Syrie. Visiblement, ils sont assez nombreux. Hein. On parle d'un chiffre entre 10 000 et 20 000 réfugiés afghans en Iran qui partiraient dans les milices chiites en Syrie.
Oui, alors j'ai retrouvé 3 tombes, parce que comme elles ne sont pas regroupées également, donc il faut chercher un petit peu, au petit bonheur la chance, dans les allées du cimetière, et là, effectivement, il y a 3 tombes de combattants afghans. Alors, vous savez, les tombes, c'est très succinct, hein, juste le nom, la date de naissance, et puis il n'y a pas les circonstances de la mort. Alors, il y a souvent la photo, on voit effectivement que ce sont de très jeunes gens. L'âge, en général, c'est 20 ans, et j'ai parlé aussi avec un vieil Afghan qui vient tous les jours entretenir leur tombe et qui travaille un peu au cimetière aussi. Donc c'est quand même assez touchant de voir ces jeunes Afghans qui finalement ne sont pas là, ne vont pas se battre pour des raisons idéologiques. Hein. Ils sont là parce que c'est un peu la misère ou l'espoir d'une vie meilleure qui les pousse à aller rejoindre les combattants iraniens sur le sol syrien.
Mais on les pousse à partir ?
Je crois, oui.
On les encourage.
Je pense qu'il y a une partie de volontaires. Et puis alors les pousser, vous savez, on peut leur dire, oui, vous aurez peut-être une meilleure vie quand vous reviendrez. En tout cas, Une chose est certaine quand même, c'est que la Fondation des Martyrs est une des grandes fondations traditionnelles issues de la Révolution qui s'occupe des familles des martyrs, donc qui donne de l'argent aux familles des martyrs après la mort d'un de leurs enfants, s'occupe des Afghans également, des blessés et des morts, de leurs familles, comme si c'était des Iraniens. En tout cas, c'est ce que la Fondation dit.
Oui, peut-être qu'ils partent aussi parce qu'on sait que les Afghans en Iran font l'objet souvent de discriminations très importantes. Du coup,
alors, on va bien préciser une chose très importante, hein, ce sont uniquement des Afghans chiites, c'est-à-dire
oui,
qui appartiennent à la communauté Hazara, qui occupe le centre d'Afghanistan et une partie de la ville de Kaboul.
Et est-ce que ces Afghans ont le droit aux mêmes hommages que leurs frères d'armes iraniens? Est-ce que, par exemple, ils peuvent être enterrés au même endroit dans ce carré des martyrs?
Il n'y a aucune discrimination.
Dans le cimetière. Et alors, quand ils reviennent au pays, parce qu'ils ne meurent pas tous, quand ils reviennent en Iran, ces combattants, comment est-ce qu'ils sont reçus? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils sont soutenus financièrement? Ou est-ce qu'ils sont totalement abandonnés?
Non, je crois qu'ils ont quand même un statut de combattant. Ils ont risqué leur vie et donc je pense qu'ils gagnent quelques arrangements dans leur vie qui
y compris les Bassidjis, ceux qui sont pas des
alors les Bassidjis, alors le camp professionnel, vous savez, les Bassidjis c'est une organisation extrêmement puissante présente dans toutes les villes iraniennes, donc c'est une des bras armés du régime. C'est ce qui, notamment, les Bassidjis sont chargés un peu de faire la police des mœurs, par exemple, de moins en moins par ailleurs, donc les Bassidjis, effectivement, être Bassidj, c'est avoir des droits spéciaux, notamment pour entrer à l'université.
Jean-Pierre, vous êtes parti notamment pour couvrir les élections. Il y a une quinzaine de jours, les Iraniens, les Iraniennes sont allés voter, d'abord pour élire leur nouveau parlement, le Majlis, et puis aussi pour élire cette assemblée des experts qui est chargée de nommer le guide suprême, le plus haut personnage de l'État. La presse internationale a beaucoup parlé de cette victoire de la liste Rouhani, peut-être un peu vite assimilée comme une liste de réformateurs. Alors, victoire, c'est vrai qu'elle a eu lieu, notamment du côté Téhéran, où tous les sièges ont été remportés par cette alliance Espoir, Sérénité, Prospérité économique. Comment est-ce que vous analysez, vous, ce scrutin? Est-ce que c'est un coup de force réellement des réformateurs, ou est-ce qu'il faut un petit peu nuancer les choses?
Je crois qu'il faut beaucoup nuancer les choses. Alors d'abord, il y a eu, vous savez que chaque élection est précédée par l'élimination d'un certain nombre de candidats, ceux qui ne répondent pas aux normes exigées pour présenter leur candidature. Et là, évidemment, le Conseil des gardiens de la Constitution, une sorte de conseil constitutionnel tenu par les ultra-conservateurs, a éliminé tous les réformistes qui avaient un petit peu de muscle, si on peut dire. Voilà. Et il a gardé les réformistes mous. Et ceux qui se sont présentés, faut bien reconnaître que ce sont des réformistes mous, enfin du moins qui font profil bas. Mous, j'aime beaucoup le mot en iranien, c'est chol, et c'est vraiment ils sont chol, voilà, ils sont mous. Et puis alors les élections en revanche ont permis d'éliminer tous les, alors moi je les appelle pas les conservateurs parce que c'est les révolutionnaires. Moi je préfère les appeler les révolutionnaires. Les révolutionnaires les plus durs, les plus radicaux, et donc ça c'est la volonté populaire, hein. Donc les Iraniens ont voté pour éliminer ces gens-là. Donc on a en présence d'une assemblée avec des conservateurs doux, des réformateurs mous, donc une sorte de marécage, si vous voulez, dans lequel je pense que Rouhani puisera des majorités de circonstances. Et puis alors évidemment, vous savez, en Iran, on change très facilement de veste aussi. Si Rouhani va bien, je pense qu'il aura une grande majorité du Parlement qui le suivra. S'il est en difficulté pour X ou Y raison, la majorité du Parlement risque un petit peu de s'éloigner de lui.
Jean-Pierre Perrin, c'est intéressant de vous entendre parler. Vous dites, moi je préfère parler des révolutionnaires et pas des conservateurs. Je parle pas de réformateurs, mais de réformateurs mous. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir ce paysage iranien en gros coupé en deux entre les réformateurs d'un côté et les conservateurs de l'autre, incarnés les premiers par le président Rouhani et puis les seconds par le guide Khamenei. C'est une grille de lecture qui vous paraît pertinente, parce que on a eu pas mal d'observateurs, on a lu certains journalistes qui nous disaient que finalement, peut-être que la vraie grille de lecture, c'était plutôt les pragmatiques versus les idéologues.
Oui, c'est un peu ça aussi. Non, mais effectivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens au sein du Parlement qui ont été élus dans une province ou une autre sans avoir véritablement d'engagement idéologique très fort. Un peu de, voilà, des ventres mous, des centristes, tout ça. Ces gens-là ne sont pas effectivement des radicaux. Mais est-ce qu'ils auront assez de courage pour imposer de réels changements?
Et suffisamment de marge de manœuvre aussi.
Si il incarne le changement, il l'a incarné parce qu'il a gagné l'accord sur le nucléaire. Sans lui, il n'y en aurait pas eu. Mais maintenant, il faut qu'il continue et à imposer les réformes économiques qu'il veut. Alors, il a fait preuve d'un acte de courage qui a été assez peu remarqué avant-hier. Il a pris publiquement fait et cause pour l'ancien président Ratami, qui, lui, n'est plus autorisé de parler, n'est plus autorisé à avoir sa place dans les médias, qui est complètement boycotté, pas en prison, hein, mais il n'a pas le droit de s'exprimer. Et là, on a noté un soutien appuyé de Rouhani à l'ancien président Ratami, qui avait exercé quand même deux mandats en Iran.
Jean-Pierre Perrin, quelle évolution on peut attendre de ce scrutin? Alors, il y a un second tour, il faudra attendre, mais la percée des réformateurs, même s'ils sont mous, est là. Quelles évolutions en matière de politique étrangère, et notamment sur le dossier syrien qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui? Est-ce que ça va changer quelque chose?
Le dossier échappe totalement au président Rouhani. Tout ce qui concerne la sécurité de l'Iran et le dossier syrien est représentatif. Donc, est géré par les gardiens de la révolution et par le bureau du guide. Je crois que ces deux instances sont eux qui ont vraiment le contrôle du dossier, et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à une quelconque inclinaison positive dans ce domaine. Le dossier syrien est considéré vital par l'Iran, donc les gardiens de la révolution et le bureau du guide ne le lâcheront pas.
Est-ce que des évolutions sont à attendre, du côté des libertés civiles? Est-ce qu'on pourrait voir une forme d'ouverture, une forme de relâchement, ou est-ce que, au contraire, il faut s'attendre à ce que les conservateurs, puisqu'ils ont été d'une certaine manière défaits, en tout cas ils sont en recul, réaffirment peut-être leur influence, et ça, ça pourrait peut-être s'illustrer justement dans le domaine des libertés civiles.
Les conservateurs, que vous appelez conservateurs et que j'appelle les révolutionnaires, eh bien, les révolutionnaires n'ont pas du tout reconnu leur défaite. Non, au contraire. Ils ont dit, mais les grands principes ne doivent pas être sujets aux évolutions du corps électoral, en quelque sorte. Donc, non, les grands principes ont été fixés une bonne fois pour toutes, gravés dans le marbre. Il n'est pas question qu'on touche. Alors ça, c'est le premier point. Donc, il n'y aura pas... Voilà. En revanche, sur la question des mœurs, je les trouve beaucoup, beaucoup moins figées qu'auparavant. La question du voile est de moins en moins tabou. C'est plus le tabou absolu que ça a pu être. Maintenant, tout le monde... J'ai vu, dans certains quartiers très limités, Téhéran, pas du tout dans la majorité de la ville, mais dans les quartiers nord, par exemple, où les filles, pendant 2-3 minutes, enlèvent leur voile. Et le remettre, évidemment. Mais quand même, il y a quand même un jeu là-dessus. Un jeu qui a quand même une tonalité politique, hein. Le voile, c'est pas seulement, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Ça montre au régime, je te défie, hein, quand on enlève ne serait-ce qu'une minute.
Alors, il y avait le Majlis et puis il y avait aussi cette élection pour élire les membres de l'Assemblée des experts chargés, rappelons-le, de nommer donc le guide suprême. Ils sont élus pour 8 ans. Donc, je le disais, on en parlait la semaine dernière avec Marc Semo à cette même table. On dit, a priori, il devrait peut-être élire le prochain, puisqu'on sait qu'il est très fragile. Est-ce que vous notez là des évolutions dans cette nouvelle Assemblée des experts ou est-ce qu'il faut pas en attendre grand-chose?
Alors, oui et non, ils ont quand même éliminé là aussi les plus radicaux, à l'exception de quelques-uns. Donc, c'est Et en même temps, sont entrés en force Rafsanjani, par exemple, qui pourrait retrouver son poste de chef de l'Assemblée des experts. Et donc, Rafsanjani, bon, évidemment, même s'il proclame tous les jours sa grande amitié pour le guide, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Et donc, lui, quand même, a une capacité de manœuvrière qu'on ne peut pas sous-estimer. Mais je pense quand même qu'il n'y aura pas de grandes évolutions en Iran.
L'hypothèse selon laquelle peut-être le guide suprême serait remplacé par un collège de religieux, ça vous paraît?
Oui, c'est possible. Non, mais ça, c'est tout à fait possible.
Mais c'est une énorme évolution,
non,
ça.
Mais il faut attendre le départ.
Ouais, bien sûr.
Du guide, ça ne peut pas se faire de son vivant, je crois.
Un dernier mot, Jean-Pierre, peut-être sur la question des sanctions, parce que peu à peu, les sanctions à l'égard de Téhéran se lèvent, il y en a qui restent encore, mais est-ce que c'est quelque chose qui est visible à Téhéran? Est-ce que dans les magasins, dans les commerces, la levée des sanctions est quelque chose de palpable?
Non,
vous qui êtes allé pas régulièrement.
Pas encore. Simplement, tout le monde est à l'esprit plus léger, si vous voulez. Voilà, on est. Il y a une sorte de légère effervescence qui assez impalpable, mais quand même, tout le monde est content d'avoir franchi cette étape, même si sur le terrain, ça ne se voit pas visiblement. De toute façon, les magasins à Téhéran ont toujours été remplis. La camelote chinoise a immédiatement envahi le pays dès lors que les sanctions prenaient leur effet.
Donc ils n'ont pas encore été remplacés par des produits européens et américains.
Non, cette camelote chinoise, vous savez, c'est le grand désespoir quand même pour l'Iran, à mon avis. Elle a détruit des pans entiers de l'économie, elle a ruiné une partie du bazar. Donc, si la Chine prend moins d'importance en Iran, je crois que ça sera très profitable aux Iraniens.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Perrin. Je rappelle qu'on peut vous lire, bien sûr, dans Libération. On pourra lire d'autres papiers dans les jours qui viennent. Vous restez avec nous, Jean-Pierre ?
Avec plaisir.
Syrie, la guerre qui change le monde, journée spéciale sur France Culture. Quelles conséquences géopolitiques, humanitaires, politiques de Homs à Londres? Toute la journée, émissions et reportages en Syrie, et l'écrivain et diplomate Jean-Christophe Ruffin livre son calendrier intime en 10 dates des événements survenus au Moyen-Orient, dans les Balkans et en Europe depuis 5 ans. Écrire le monde moderne sur France Culture. Syrie, la guerre qui change le monde, aujourd'hui jusqu'à 22h. À écouter aussi sur franceculture.fr, en partenariat avec Libération.
Voilà, journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde avec nos partenaires de Libération. Aujourd'hui, table ronde, Poutine, maître du jeu syrien, avec nos invités Tornike Gorgdadze, Cyril Brett et Marc Semo. Marc, aujourd'hui, et malgré la trêve, occidentaux et russes s'opposent toujours sur la façon de parvenir à une solution politique à la crise. Dernière démonstration en date C'était il y a quelques jours, passe d'armes entre le président français François Hollande et Vladimir Poutine, le premier jugeant comme provocatrice et totalement irréaliste l'idée du président syrien l'idée du président syrien d'organiser des élections législatives en avril, alors que le chef du Kremlin, lui, considère que cela ne gênerait en rien le processus de paix qui reste encore à bâtir. Nouvelle preuve, s'il en fallait, marque que Moscou impose ses vues et son calendrier au reste du monde dans ce dossier-là, face à des Américains figés et des Européens impuissant. On a l'impression, Marc, que depuis des mois, pour pas dire depuis le début finalement, celui qui maîtrise ce « je sais rien », je mets évidemment des guillemets, c'est Moscou.
Oui, et toute solution politique passera d'une manière ou d'une autre, se fera aux conditions voulues par Vladimir Poutine. Alors, simplement, bon, en apparence, donc la Russie retrouve son rang avec la crise syrienne, mais il ne faut pas non plus exagérer. Son PIB et pas de beaucoup supérieur à celui de l'Espagne. Ça n'en fait pas une grande puissance. La Russie, donc, n'a pas non plus les moyens de mener une guerre très longue entre les sanctions sur l'Ukraine et la chute des cours du pétrole. La vraie force de la Russie aujourd'hui, et de Vladimir Poutine, c'est la faiblesse des autres. C'est le renoncement américain. D'abord, à l'été 2013, le refus d'Obama, malgré ses déclarations sur la ligne rouge d'employés de faire des frappes contre le régime syrien coupable d'avoir utilisé l'arme chimique contre sa propre population. C'est l'impuissance, dont on parlait tout à l'heure, des Européens, qui est d'autant plus paradoxale que l'Europe est d'une certaine façon la plus menacée, que ce soit par la crise des migrants, que ce soit par la montée du djihadisme. Ensuite, l'autre grand atout de Vladimir Poutine, c'est de savoir ce qu'il veut. La Russie, en Syrie, au Moyen-Orient, là, la Syrie était son ancrage traditionnel au Moyen-Orient, mène une politique impériale, une politique de 19e siècle. Bon, il y a toujours la volonté de la Méditerranée, mais aussi, par exemple, elle se pose ouvertement en protectrice des chrétiens d'Orient, ce qui est une vieille politique russe. Hein, au 19e siècle, elle était en rivalité ouverte avec la France là-dessus. C'était d'ailleurs la raison de la guerre de Crimée. Et donc, la Russie reprend aujourd'hui ces thèmes. Mais en même temps, justement, s'il n'y a pas une solution politique, la Russie, si la Russie impose le maintien de Bachar el-Assad, ça risque d'être une guerre sans fin. Et le pari d'Obama, c'est celui que Poutine est un acteur rationnel. Le problème, c'est que c'est un pari.
C'est un pari. Tornike Gordadze, Marc Semon nous dit oui, Poutine est le maître du jeu, et en même temps, il n'a pas que des atouts dans son jeu.
Oui, je suis d'accord avec Marc sur ce point, et notamment sur la faiblesse et l'incapacité de l'Occident d'imposer sa vision en Syrie. Ce qui était inquiétant aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine arrive à obtenir ce qu'il veut une quatrième ou cinquième fois en recourant à la guerre. Les guerres en Géorgie, en Ukraine, en Tchétchénie, Vladimir Poutine, en utilisant le maximum de sa force militaire, en ne regardant pas les pertes civiles dans les pays où il est intervenu, finalement, il a obtenu ce qu'il voulait. La communauté internationale a plus ou moins accepté, un peu moins en Ukraine, parce que c'est dernière en date, mais que ce soit en Tchétchénie, au prix de 200 000 morts il y a quelques années, en Géorgie un peu moins, mais avec l'occupation de facto de deux régions géorgiennes, en Ukraine avec l'annexion de la Crimée et la guerre à peine voilée, l'intervention à peine voilée à l'est, au sud-est de l'Ukraine, Poutine obtient des choses, finalement de facto ce qu'il souhaite avec la résignation des Occidentaux, et les tactiques n'ont pas beaucoup changé non plus. Je rappelle qu'il y a quasiment jour pour jour, il y a 11 ans, mourait le président tchétchène Aslan Masradov. Les Russes, la tactique russe en Tchétchénie ressemble étonnamment à ce qu'ils font en Syrie, c'est-à-dire on attaque d'abord les modérés, les gens qui sont gênants parce qu'ils peuvent être des interlocuteurs possibles sur la scène mondiale ou régionale. On les massacre, on les tue et on radicalise ceux qui restent pour dire ensuite qu'on combat les djihadistes, les radicaux avec qui on peut pas discuter.
C'est exactement
expérimenté en Tchétchénie, et ça, on fait la même chose aujourd'hui en Syrie.
C'est exactement ce que dit cet ancien capitaine de l'armée de l'air syrienne, qui explique dans Libération ce matin que finalement la stratégie des Russes, c'est d'étouffer l'opposition modérée jusqu'à ce que l'État islamique ne devienne l'unique ennemi, finalement, l'unique interlocuteur possible. C'est ça le jeu, la stratégie des Russes. Cyril Brett, Poutine maître du jeu. Alors Marc Sémo rappelait tout à l'heure effectivement la reculade, la fameuse reculade de Obama à l'été 2013, où il dit que si on utilise, si le régime utilise l'arme chimique, alors les États-Unis interviendront. Reculade, ils n'interviennent pas. Mais est-ce qu'au fond, le verre n'était pas déjà dans le fruit? Est-ce qu'il n'y a pas eu une première erreur finalement des Occidentaux quand à la fois Barack Obama et Hillary Clinton, en août 2011 pour le coup, déclarent que Assad doit partir? Ce qui va provoquer évidemment aussi là une explosion de violence. Est-ce que c'est pas ça la première erreur, c'est-à-dire faire croire à l'opposition syrienne qu'on va la soutenir alors qu'on ne la soutiendra pas en réalité? Oui, Cyril Brett.
C'est une erreur à l'échelle de l'échiquier politique syrien. C'est aussi un signal d'encouragement à la politique russe qui, depuis une dizaine d'années, pointe partout dans le monde les stratégies occidentales qui visent au changement de régime, au régime change, et qui s'arc-boute au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans toutes les enceintes officielles contre les ingérences de type politique. Je pense que ce qui est très important de garder en tête, c'est qu'il y a plusieurs forces de rappel face à l'activisme, à la rapidité d'exécution et à l'espèce d'omniprésence publicitaire de Vladimir Poutine et qui doit s'imposer dans les rapports que les Européens ont avec lui. C'est un colosse qui est très démonstratif, très vocal, très bruyant, qu'on voit partout, mais qui a des forces de rappel très fortes. La contraction du PIB 2 années de suite va nécessairement mettre à mal ses finances publiques qui sont très tributaires. C'est le deuxième facteur qui a été pointé des cours des hydrocarbures. Voilà pour l'aspect marxiste. Les sanctions de l'Union européenne sont une épine dans le pied. Et même si l'Ukraine a été largement oubliée ou occultée, c'est encore avec le dossier baltique, avec le dossier arctique, un point de désaccord structurel avec les Européens. Et quand on dit à juste titre que le principal atout de Vladimir Poutine depuis le 28 septembre de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est l'absence de détermination et l'absence en fait de stratégie des Européens, c'est d'autant plus vrai qu'en fait les Européens sont à l'égard de la Syrie engagés dans une politique de réaction, pas d'action, et dans une politique de sous-traitance du problème migratoire aux Turcs et puis sous-traitance du problème de la violence sur le terrain aux Russes. C'est-à-dire que en fait ce qu'a réussi Vladimir Poutine entre le 28 septembre 2015 et aujourd'hui, c'est à faire croire qu'il est le seul capable d'intervenir militairement là-bas et que c'est lui qui va apporter la solution politique. Or, c'est là où je m'inscris en faux avec cette idée-là. En soutenant mordicus le régime Assad, en soutenant son implantation militaire à Tartous, son client en matière d'armement, il ne fait que renforcer en fait l'antagonisme et repousser d'autant plus la résolution politique, exactement comme il le fait en Ukraine. C'est-à-dire que le but, c'est le pourrissement en fait du conflit en Ukraine et en Syrie, dans la mesure où les Russes sont maîtres dans la gestion de ce qu'on a appelé les conflits gelés, qui sont plutôt des conflits pourris, c'est-à-dire des conflits qui ne se résoudront jamais. Exactement. Et en fait, ce que ne comprennent pas les Européens, c'est qu'en fait, les Russes sont capables de gérer des États faillis sur des dizaines d'années. Ils sont capables d'installer à leur marge, et même un petit peu plus loin, des positions de faiblesse qui font qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs et ils sont capables de gérer cette situation sur le long terme.
Alors, Tornike Gordadze, vous avez demandé la parole et ensuite je la passe à Marc Sémo.
Oui, un petit mot sur l'affaiblissement économique de la Russie qui est réel et la contraction du PIB. Je suis pas sûr que ça apporte à long terme une plus grande rationalisation dans l'approche de Poutine, parce que le conflit en Ukraine a justement commencé lorsqu'il s'est senti un petit peu plus fragile. Il a les actions armées à l'extérieur des frontières russes vise aussi à renforcer la légitimité du régime à l'intérieur. L'implication en Ukraine obéissait à la fois à la peur de voir le même scénario, scénario de couleur, révolution de couleur se répéter en Russie, mais aussi à cet enrayement de la machine économique qui était déjà sensible à partir de 2011-2012. Maintenant, la propagande officielle évidemment parle beaucoup de la Syrie et des succès de la Russie en Syrie et de ses ennemis occidentaux qui empêchent la Russie d'imposer la vérité partout dans le monde, justement pour détourner l'attention du public des problèmes économiques réels.
Marc Sémo.
Oui, les conflits gelés. Alors effectivement, c'est un maître dans l'art de gérer les conflits gelés, mais les conflits gelés sont dans l'ex-espace soviétique et en général sur des tout petits autres États, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Transnistrie. Bon, la Syrie, c'est quand même une autre dimension. Donc là-dessus, rationnellement, les Russes auraient intérêt à effectivement essayer de trouver une solution politique qui leur convient. Et d'une certaine façon, pour eux, le but, c'est de garder d'une manière ou d'une autre le régime. C'est pas clair s'ils veulent ou non garder à long terme Assad. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas le risque de la fuite en avant russe? C'est-à-dire, cette guerre est pour le moment populaire. Poutine est en difficulté. Finalement, est-ce que ce genre d'opération ne va pas l'inciter, parce qu'il y a un nationalisme très fort, à aller toujours plus en avant? Ces dernières années, il testait la volonté de l'Occident et de l'OTAN à propos des États baltes, avec les nombreuses incursions aériennes. Est-ce que là, il ne va pas le faire sur la Turquie, hein, qui est de fait son principal antagoniste aujourd'hui sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus aussi un risque de grand dérapage à cause des fuites en avant de Poutine?
Sur le risque de la fuite en avant, Cyril Brett?
Oui, alors c'est exactement la question de la rationalité de Vladimir Poutine. Et c'est exactement la question de la fonction du conflit syrien. Vous avez parfaitement raison. On passe de conflits qui sont dans l'étranger proche, y compris le Donbass et la Crimée, enfin c'est pas un conflit, à l'exportation. Et le coup de maître de Vladimir Poutine, au risque de la fuite en avant, c'est d'avoir pris les Européens en fourchette entre la rivalité et le désaccord, la tension en Ukraine, et la nécessité de s'allier avec les Russes en Syrie. C'est-à-dire alliés au sud, rivaux à l'Est, et c'est comme ça qu'il a réussi effectivement à instaurer cette logique. Maintenant, on le voit bien dans la dynamique qui est engagée dans le conflit syrien. L'intervention militaire russe est présente, les solutions qui sont proposées par les Russes sont volontairement provocatrices et inacceptables pour le moment. De sorte que la seule dynamique qu'on voit à l'œuvre dans l'action extérieure moscovite pour le moment, c'est tout simplement la prolongation d'hostilité jusqu'à épuisement, radicalisation et épuisement, en fait, selon la tactique qui a été très bien décrite auparavant, radicalisation et épuisement des différents adversaires jusqu'à ce que, en fait, Moscou puisse faire prévaloir son agenda, à mon avis assez rationnel, qui est la préservation de ces quatre grands intérêts stratégiques en Syrie, qui sont très concrets et pas du tout idéologiques.
Jean-Pierre Perrin, avant peut-être de revenir sur l'accord de paix et puis l'opposition syrienne modérée. Jean-Pierre Perrin.
Une dimension aussi croisade de l'intervention russe, qui est quand même extrêmement inquiétante. Le fait que le clergé russe, orthodoxe russe, bénisse les bombes, vous imaginez quand même comment ça peut être ressenti sur le terrain, à tel point d'ailleurs que l'église orthodoxe libanaise s'est dissociée de l'église orthodoxe russe, que l'évêque de Beyrouth, l'évêque orthodoxe de Beyrouth, a dit « Ah non, 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 nous ne voulons pas entendre ça, nous ne nous associons pas à ça ». Et alors, cette dimension croisade, cette dimension guerre sainte...
Elle est voulue par Poutine ?
Oui, oui, bien sûr. Elle est soutenue par Poutine, évidemment. Ça donne une dimension, ça légitime l'action des djihadistes. En fait, vous voyez, l'Occident nous attaque. Ils font à nouveau, c'est le retour des croisades. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'alliance des minorités. Également, sur laquelle, d'ailleurs, on retrouve la même position à Téhéran. Mais cette alliance des minorités est extrêmement dangereuse pour les minorités elles-mêmes, qui risquent de disparaître purement et simplement dans cette alliance, parce qu'elles, de toute façon, elles ne feront pas le poids. Et je pense en particulier, la pire chose pour les chrétiens, c'est d'être associé à cette alliance des minorités.
Torniquet Gordadze.
Je vais faire juste quelques parallèles par rapport à ce que Jean-Pierre disait, et cette dimension religieuse. Cette implication de l'Église orthodoxe, paradoxalement, on l'a vu aussi en Ukraine. Alors que les Ukrainiens sont chrétiens, dans leur grande majorité, ils sont orthodoxes, mais il y avait des groupes, notamment qu'on appelle dans la presse française des séparatistes, un certain nombre d'entre eux étaient ultra-religieux, avec des drapeaux, avec des symboles religieux. Il y avait même des voitures, des voitures de combat qui étaient qui ornaient des inscriptions djihad orthodoxe. Donc tout ça n'est pas nouveau. C'est déjà expérimenté en Ukraine. Ça a déjà été expérimenté en Ukraine et en Géorgie, où les régimes sont décrits comme étant des régimes traîtres qui ont trahi le monde orthodoxes se sont vendus à l'Occident. Et deuxième parallèle avec l'Ukraine, c'est par rapport aux élections qui a été mentionné, cette insistance d'organiser vite les élections pour légitimer des régimes, des auxiliaires de Kremlin. Comment organiser les élections, c'est compris dans les accords de Minsk, mais comment organiser les élections à l'est de l'Ukraine alors que vous avez presque 2 millions de personnes qui ont quitté la région. Certains sont partis dans les autres régions de l'Ukraine, d'autres sont partis en Russie, où de facto il n'y a aucune possibilité d'expression pluraliste, la presse libre n'existe plus, et Poutine veut, avec l'accord des Occidentaux, organiser les élections à l'est de l'Ukraine pour légitimer les autorités, une espèce de dictature militaire qui émerge sur place. La même chose en Syrie. Donc c'est quelque chose que les Occidentaux ne doivent pas accepter à ce stade, tant que les conditions ne sont pas réunies.
Cyril Brett, les États-Unis et la Russie sont parvenus à un accord de cessation des hostilités depuis le 1er mars. La situation sur le terrain s'améliore, même si c'est vrai qu'il y a eu des violations céréales, bien sûr, et malgré tout la poursuite quand même des frappes contre les forces djihadistes. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige globalement vers une amélioration progressive, bien que lente, de la situation, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on peut retomber dans un nouveau cycle de violence généralisée? Et deuxième question qu'il y a derrière, il va y avoir un cycle de discussion, de négociation. Est-ce qu'il vous semble que ces négociations peuvent sauver les forces de l'opposition syrienne modérée, précisément, alors qu'on a bien compris que la stratégie de la Russie, c'est précisément d'anéantir cette opposition modérée? Cyril Brett.
Il me semble que les grands déterminants d'un cessez-le-feu durable possible, puis d'une solution politique, ne sont pas encore réunis. De sorte que ce sera peut-être cette annonce de cessez-le-feu proposée par les États-Unis et par la Russie, ce sera peut-être une étape vers un règlement à terme de la situation. Mais les astres ne sont pas alignés. L'analyse du conflit par les deux grandes capitales, Moscou et Washington, reste sensiblement différente. Pour Moscou, ça reste une révolte contre un pouvoir légal et un pouvoir légitime. Pour Washington, d'ailleurs comme pour la diplomatie française à l'époque, c'est une des multiples figures des printemps arabes et de la libéralisation, de la démocratisation appelée du Moyen-Orient. Et de même, le point de fuite, c'est-à-dire la solution politique pour Washington et les Occidentaux d'un côté et pour Vladimir Poutine, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que d'un côté, la solution politique, c'est un changement de régime, le départ d'Assad, du clan Assad, parce qu'il faut pas, enfin c'est un pouvoir collectif, hein, c'est un pouvoir clanique comme souvent en Syrie, et de l'autre côté, c'est le maintien des intérêts durables. Il a été rappelé que l'alliance entre la Syrie et la Russie date de bien avant la création de la Fédération de Russie actuelle, des années 70, et l'alliance avec le père Al-Assad sur après la rupture avec l'Égypte. Donc, si le maintien d'un dispositif russe en Méditerranée orientale et en Syrie est le point de fuite sur lequel Moscou ne négociera pas, de l'autre côté, du côté occidental, c'est bien le changement de régime et la démocratisation de la Syrie qui sont en vue. Ce qui fait que, ni du point de vue de l'analyse du conflit, ni du point de vue des solutions possibles et des garanties à apporter, les conditions sont réunies pour un accord durable et une sortie de crise. Sans négliger qu'en fait, on a beau dire que Vladimir Poutine est le maître du jeu, la Turquie et l'Arabie Saoudite poursuivent chacun des agendas qui sont différents et sans lesquels il ne va pas être possible de composer.
Tornike Godze, sur cet accord de paix donc trouvé entre les États-Unis et la Russie, cette question de savoir si oui ou non les négociations peuvent sauver l'opposition modérée. Position syrienne.
Oui, c'est difficile à dire. C'est vrai que maintenant, Poutine a réussi son coup de force dans la mesure où lui-même, comme disait Marc Semo, il peut pas continuer indéfiniment ses opérations militaires parce que ça coûte très cher. Et on a des gros problèmes économiques en Russie, notamment dans les provinces, dans les régions. On sait que le financement des régions telles que la Tchétchénie, le Daghestan, la reconstruction, c'est tari. Il y a la Crimée à financer. On donne plus de l'argent au Donbass. Donc, il y a des vrais problèmes économiques en Russie. Donc, les Russes ne peuvent pas aller non plus au-delà d'une certaine limite dans leur implication en Syrie. Par contre, ils ont réussi à mettre tout le monde à la table de négociation et d'obtenir des avancées au niveau des négociations. Est-ce que ça va sauver?
Ceci dit, je sais, peut-être que vous allez me donner un peu plus de détails, mais je ne sais pas si véritablement les représentants du gouvernement syrien et le Haut Comité des négociations, qui est donc la principale représentation de l'opposition, s'ils se parlent directement en réalité. Je ne crois pas jusqu'à présent. Ils sont séparés, voilà. Donc pour l'instant, en réalité, ils ne sont pas à la table des négociations.
Mon petite expérience de négociation des questions donc de règlement de conflit avec la Russie, c'était après la guerre avec la Géorgie à Genève, c'était aussi continuer la déstabilisation sur place, tout en s'imposant comme une puissance intéressée dans les négociations et en sous-traitant un certain nombre de groupes, notamment à l'époque, c'était les séparatistes Abkhazie Ossétie.
montrant plus ouvert, mais sur des questions, des vraies questions, disant moi je peux pas contrôler ces groupes qui eux ils sont radicaux, ils peuvent pas accepter un certain nombre. Ça ressemble fortement à ce qui se passe dans les négociations sur la Syrie.
Marc, c'est bon. Ce que dit Tornier, je pense, c'est le risque majeur, c'est-à-dire cette espèce de grignotage. On l'a vu d'ailleurs au début, au moment où on devait reprendre la conférence. Les négociations à Genève, ils ont lancé la grande offensive sur Alep. Ils n'ont pas réussi à boucler le siège, mais ils ont conquis d'importantes positions. Maintenant, ils les digèrent. Ensuite, il y a le risque qu'ils continuent. Et ce risque de grignotage, hein, en faisant en même temps agir des agents en sous-main, est d'autant plus fort que aujourd'hui, le contrôle du cessez-le-feu, il n'y a pas un mécanisme transparent, même si à Genève, il y a un comité où il y a les Russes, les Américains, l'ONU et théoriquement les autres pays du groupe de soutien international à la Syrie. De fait, ceux qui contrôlent le cessez-le-feu, ce que n'arrête pas de rappeler l'opposition modérée, ce sont les Russes. Ils sont à la fois ceux qui bombardent et qui continuent encore occasionnellement à bombarder et qui contrôlent le cessez-le-feu. Et donc, cette question du mécanisme de surveillance est fondamentale. Et personne ne la pose ouvertement. On n'arrive toujours pas à comprendre comment peut avoir lieu ce contrôle.
Et c'est quelque chose qui sera évoqué là dans le prochain cycle de négociations. Là,
l'espérer.
Il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à partir de lundi prochain. Cyril Brett.
Oui, il y a juste le point qui fait espérer qu'il y aura des limites à l'intervention russe, qui est celui du coût. Alors malheureusement, autant que je puisse le voir dans les différentes données statistiques que je collecte, on est loin du bourbier afghan et de l'investissement de fonds publics à fonds perdus. Il a été chiffré par plusieurs organes de presse internationaux que le coût est à 1% du budget de défense russe, qui est considérable puisque Vladimir Poutine, depuis 2009, a porté le budget de ce qu'on appelle l'effort de défense, c'est-à-dire le budget de défense rapporté au PIB total de la Russie à 4%, ce qui est absolument considérable. Je rappelle que les Français ont du mal à le porter à 2%. Malheureusement,
en 2011, il avait dit qu'il engageait quasiment 300 milliards d'euros d'ici 2020.
Oui, en plus,
rénover l'armée.
Si on va en Russie, on voit une militarisation très forte. Hein. Il y a 850 000 personnes maintenant, on est proche du million, qui sont sous les drapeaux. Donc c'est vrai qu'il y a une remilitarisation très forte. Mais pour le moment, dans les données que j'ai, dans le conflit syrien, malgré le côté très visible des forces russes aéronavales, c'est encore un effort qui est soutenable, toutes choses égales par ailleurs. On verra bien s'il y a plusieurs années de suite de contraction de PIB et d'attrition des finances publiques, mais cette force-là ne peut pas jouer à très court terme sur les négociations et comme une force de rappel à la modération pour les pouvoirs russes.
Il y a aussi peut-être moins de morts dans l'armée russe que dans le cas ukrainien, où on sait maintenant que entre 1000 et 2000 personnes, donc des personnes qui font partie officiellement de l'armée russe, sont morts en Ukraine. On n'a pas du tout ces chiffres en Syrie parce qu'il n'y a pas d'implication terrestre et
Marc Semo fait nom de la main.
Pas de même niveau, parce qu'en Ukraine, lors des grandes offensives russes, il y avait 40 000 soldats de l'armée russe qui étaient sur le terrain. Donc ça, c'est pas les mêmes proportions.
Absolument.
Sur le sort de Bachar al-Assad, Tornike Gordadze, pour l'instant, Moscou continue de refuser ce départ de Bachar al-Assad, en tout cas de considérer que c'est un préalable, alors que les Occidentaux, eux, continuent d'affirmer que avec lui, il n'y a pas de solution durable en Syrie. Est-ce qu'on pourrait trouver un point d'entente sur le sort du président syrien et est-ce que Poutine pourrait enfin lâcher Bachar?
Je connais peu finalement la cuisine interne du régime en Syrie. Est-ce que les Russes ont d'autres candidats pour les soutenir? Ça, j'en sais rien. Mais si on arrive à trouver un accord, cet accord va coûter très cher aux Occidentaux. Ça, je suis sûr, parce que les Russes vont demander un prix très élevé, et pas seulement en Syrie. Parce que eux, ils voient les choses globalement. Moi, j'ai entendu parler des diplomates français qui disaient que les deux dossiers n'étaient pas liés, notamment le dossier ukrainien, le dossier syrien. Pour les Russes, c'est totalement lié. Ce qu'ils obtiennent en Syrie ou ce qu'ils donnent comme concession, ce qu'ils vendent comme concession aux Occidentaux en Syrie, ils vont essayer de l'obtenir en Ukraine. D'ailleurs, l'une des raisons, je dirais pas que c'était la raison principale, mais l'une des raisons de l'implication militaire russe en septembre en Syrie, c'était pour renforcer ses positions dans les négociations sur l'Ukraine, pour obliger les Occidentaux de se ranger derrière la Russie en Syrie. Le discours de Vladimir Poutine à l'ONU, c'était on fait une deuxième grande coalition comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ensemble avec les Occidentaux. Et je rappelle qu'à l'époque, la grande coalition contre Hitler a coûté quand
même à l'Europe la perte de la moitié de l'Europe pendant 50 ans. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui, mais je veux dire, pour les Russes, ces deux conflits sont liés. Est-ce qu'ils obtiennent en Syrie est immédiatement traduisible dans leur voisinage, Ukraine ou autre pays de leur voisinage?
Ça fait des mois, ça fait des années qu'on parle de cette Syrie ici, qu'on organise des tables rondes, et très régulièrement, je demande à nos invités si, à propos de ce départ de Bachar, il y aurait un candidat qui potentiellement pourrait convenir pour remplacer Bachar el-Assad et qui pourrait convenir à la fois aux Russes et à la fois aux Occidentaux. Tout ça, évidemment, si le candidat existe, ne se jouera pas sans l'aval d'un acteur majeur, dont on parlait tout à l'heure avec vous, Jean-Pierre Perrin, l'Iran. Est-ce que à Téhéran, vous qui revenez de Téhéran, il y a comme ça des bruits, des hypothèses qui courent sur un profil d'un homme qui pourrait remplacer Bachar et qui serait Moscou compatible, Téhéran compatible, Bruxelles compatible, Washington compatible?
Alors, question extrêmement difficile.
Ankara compatible.
Mais, ça fait des mois que je la pose cette question, j'ai jamais eu de réponse, mais j'essaye encore.
On parle très peu de la Syrie à Téhéran, hein. Alors évidemment, il y a des enterrements dont on a parlé chaque semaine, pas seulement à Téhéran d'ailleurs, mais sur l'ensemble du territoire iranien. Mais c'est pas une question qui est débattue. Ça relève du domaine des gardiens de la révolution et du bureau du guide, encore une fois. Et là, et
pourtant, c'est une question essentielle.
Oui, c'est une question essentielle. Mais les Iraniens, je crois, se moquent largement de ce qui se passe en Syrie. Oui. Je pose aussi souvent la question à de jeunes Iraniens, la guerre en Syrie, etc. Ça les intéresse pas vraiment. Un seul, quand même, je dois dire, qui m'a dit, mais tout ça a été provoqué par nos dirigeants. Les manifestations au début étaient pacifiques, c'est vrai, et nous avions parmi les snipers, ceux des gardiens de la révolution qui tiraient sur les manifestants. Mais c'est une voie assez isolée.
Cyril Brett, sur cette hypothèse d'un départ de Bachar et d'un remplacement par un candidat dont on cherche encore le nom.
Je vous répondrai par une autre hypothèse, c'est-à-dire que quel serait le portrait chinois du candidat de Moscou? C'est quelqu'un qui lui garantisse ses bases militaires, ses débouchés en matière d'armement, qui lui assure que ce sont pas c'est pas un pouvoir confessionnellement marqué et favorable aux puissances sunnites, et si vous les prenez chacun d'entre eux, c'est évidemment des critères qui sont antagoniques avec ceux que rechercherait n'importe quelle diplomatie occidentale. C'est tout simplement parce que, un peu comme dans un monde logiquement impossible, il faudrait que ce candidat ou ce clan puisse allier des caractéristiques contradictoires.
Et qu'est-ce qui bloque en particulier?
Ce qui bloque, c'est tout simplement, à mon avis, la question de l'influence militaire. S'il faut que ça reste une zone dans laquelle les Russes ont leurs intérêts militaires qui sont garantis, c'est évidemment antagonique avec les intérêts de la Turquie et ceux de l'Arabie Saoudite.
Torniquet Gordadze.
Deux petits éléments pour peut-être faire avancer la réflexion là-dessus. Premièrement, on a vu en Irak que pendant des années, à quel point c'était difficile d'avoir un gouvernement qui fasse consensus auprès de différents groupes qui étaient impliqués. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça soit facile vu l'expérience irakienne en Syrie. Et deuxième élément de réponse, c'est que en Syrie, il s'agit maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, parlent plutôt du type d'État qui va émerger. Je pense que tout le monde a fait le deuil d'un État unitaire. La solution, c'est peut-être de proposer une Syrie fédérale, voire confédérale, parce que il apparaît très difficile aujourd'hui d'avoir un régime présidentiel unitaire en Syrie, quelqu'un ou un groupe qui ferait l'unanimité de toutes les forces impliquées.
Dans cette journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde, on peut lire dans Libération un numéro spécial, Le quotidien des Syriens, un numéro entièrement rédigé par des journalistes intellectuels et artistes syriens, qui raconte un pays en guerre depuis 5 ans, et on peut entendre sur France Culture toute la journée Jean-Christophe Ruffin qui propose sur notre antenne sa chronologie personnelle des événements.
13 mars 2011. En Syrie, tout va démarrer doucement. Dans la tourmente des printemps arabes, la situation syrienne ne paraît pas d'abord trop préoccupante. Certes, il y a eu des manifestations fin février, mais ce n'est pas très tôt si l'on songe que Ben Ali et Moubarak sont déjà tombés. Tout est d'ailleurs rentré dans l'ordre assez vite, selon la méthode Assad typique. Un mélange de concessions de surface, baisse des taxes sur les produits alimentaires, subventions pour le fioul, etc., et de répression violente en sous-main, avec torture et emprisonnement arbitraire massif. Mais cela ne suffit pas. Ce 13 mars, des écoliers sont arrêtés pour avoir tagué des slogans inspirés de la révolution égyptienne. Les manifestations prennent de l'ampleur et c'est à Deraa que tout s'envenime. La police tire dans la foule. Le soulèvement et la répression s'intensifient, les troubles gagnent tout le pays. Ainsi, la crise syrienne se déroule à contre-temps, au moment où l'énergie des printemps arabes ailleurs est retombée, soit que la révolution ait triomphé, soit que la répression en soit venue à bout. La Syrie, c'est le dernier acte de ce drame. Ce sera le plus long et le plus sanglant. Les acteurs se mettent en place progressivement. Le peuple, d'abord prudent, échaudé par la sanglante répression de Hama en 1982 à l'époque d'Assad père, va entrer en scène petit à petit au cours du mois d'avril. Bachar, d'abord soucieux de ne pas compromettre une image internationale que sa visite à Paris a améliorée, va osciller entre concession et répression jusqu'à montrer son vrai visage de dictateur fin avril. Enfin, les groupes rebelles s'arment peu à peu. Grâce au soutien saoudien, les Kurdes s'organisent, les islamistes ne sont pas encore présents sur le terrain syrien. Et à la fin de l'année, l'ONU peut prononcer officiellement le terrible mot « la Syrie est en guerre civile ».
Voilà, c'était Jean-Christophe Ruffin qui nous propose sa chronologie personnelle des événements tout au long de cette journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde, programme complet à retrouver sur franceculture.fr. Vous pouvez retrouver aussi cette journée sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Syrie 5 ans. Merci beaucoup à nos invités sur place, nos partenaires de Libération, Marc Semo et Jean-Pierre Perrin. Je rappelle ce très très bon numéro de Libération, le quotidien des Syriens qui est paru aujourd'hui. Merci également à Tornike Gordadze et Cyril Brett.